Le Louvre lance du rêve à la réalité.
Le Louvre lance a ouvert il y a 10 ans cette année. Et depuis 10 ans, cet autre Louvre, ce Louvre Autrement, reste un lieu observé, un lieu repéré pour son caractère profondément différent, profondément innovant. Et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la manière dont, il y a 15 ans, ce musée a été imaginé, d'une certaine manière, presque comme il est devenu, presque comme il l'est aujourd'hui. Comment on fait pour inventer un modèle qui s'est resté autant pertinent, autant à la page, des années après ? Nous sortons d'une période particulière, 2 années de pandémie, 2 années de confinement, pendant lesquelles ont pu être éprouvés ces savoir-faire de résilience, en quelque sorte, du musée du Louvre-Lens, qui sont quelque part inscrits dans ses gènes. J'ai la chance de diriger ce musée depuis plus de 5 ans, je suis Marie Lavandier, et nous allons entendre aujourd'hui nos invités, Catherine Guilloux. Vous étiez directrice des publics et de l'éducation artistique au musée du Louvre de 2000 à 2013, avant de rejoindre le centre Georges Pompidou. Bruno Godichon, vous êtes directeur et fondateur de La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent de Roubaix, qui vient d'ailleurs de fêter ses 20 années. Et Jean-Marc Terrasse, vous êtes écrivain, producteur, journaliste, scénariste, et vous avez été directeur de l'auditorium et des manifestations culturelles du musée du Louvre de 2005 à 2014. Le projet scientifique et culturel du musée du Louvre-Lens dont nous allons parler maintenant a été imaginé à peu près au milieu des années 2000. Dans un contexte particulier, on a souhaité une loi sur le musée de France pendant des décennies, et cette loi elle est arrivée en 2002. Et elle comportait quelque chose de profondément nouveau, qui était un service des publics dans chaque musée. Ceci pour remettre un petit peu le contexte dans lequel se pense le musée scientifique et culturel du musée du Louvre-Lens. J'aimerais pour commencer vous lire un extrait de la préface de ce premier projet scientifique et culturel de 2008, préface signée évidemment d'Henri Loirette, alors président directeur général du musée du Louvre. Pour le Louvre, l'élaboration de ce projet a été l'occasion de repenser ses missions, d'interroger ses collections et de se regarder d'un peu plus loin. Toutes celles et ceux qui, au Louvre, ont participé à ce chantier ont laissé libre cours aux idées les plus innovantes, imaginant de nouvelles formes de présentation des œuvres, inventant de nouvelles façons d'éduquer le regard du public sur l'œuvre d'art. Une chance unique et extraordinaire pour le Louvre qui, dans ce projet, reçoit autant qu'il donne. Alors ce projet scientifique et culturel du Louvre-Lens, c'est le résultat, et c'est original d'ailleurs, d'un processus profondément collectif à l'époque, un processus auquel vous avez tous les trois pris part. Henri Loirette a présidé un conseil scientifique qui réunissait 10 personnalités dont vous avez fait partie. J'aimerais peut-être, Catherine Guilloux, commencer par vous demander d'évoquer peut-être assez concrètement à la fois la méthodologie de travail et puis la vie de ce conseil scientifique, les réunions, la découverte du territoire. Quel souvenir pouvez-vous nous en partager ?
Le premier souvenir qui me vient, c'est un grand espace de liberté. Puisque, au fond, j'avais été recrutée au Louvre pour créer la direction des publics. Et dans cet établissement merveilleux, mais plein de contraintes. Et là, s'ouvrait devant nous la possibilité d'une page blanche avec tout le champ des possibles, y compris pour les publics et pour l'expression de ce métier que j'essayais d'imposer au Louvre à Paris et qui allait peut-être pouvoir s'exprimer pleinement au Louvre-Lens. Donc c'était déjà très enthousiasmant en cela. Et puis le fait de constituer une petite communauté autour d'Henri Loirette pour inventer ce musée autrement, ce Louvre autrement, eh bien c'était déjà l'aventure avant même qu'on ait pu co-rédiger ce projet scientifique et culturel.
Merci. Bruno Godichon, vous dirigiez un musée profondément emblématique de la région et aussi quelque part de la façon n'y pratique le musée autrement depuis plusieurs décennies. Quel était votre rôle, votre place dans ce conseil scientifique?
Ah, alors ça, je ne sais pas, parce que finalement, celui qui savait à quoi je servais, c'est celui qui m'a invité. Donc c'est plutôt effectivement Henri qu'il faudrait poser la question. On était au moins deux extérieurs. Il y avait le directeur du Grand Ornu et moi. Et on apportait... D'abord, on connaissait quand même bien la région, parce qu'on était tous les deux, finalement, en poste dans la région transfrontalière. Je pense qu'il y avait de ça. Et puis, c'est vrai que la piscine était, dans son genre... aussi un musée nouveau. Bon, l'histoire est très différente, mais c'est à la fois la même chose et le contraire du Louvre-Lens. Mais en tout cas, ce qui était très commun, c'était les questions qu'on pouvait se poser. C'est-à-dire, pour des publics qui sont ce qu'on appelait autrefois assez méchamment les non-publics, mais en fait, c'était une vraie réalité, tant dans le bassin minier que dans l'agglomération de Roubaix. Comment réussir un vrai service public des musées dans des sites qui n'en avaient jamais connu et pour lesquels on pouvait quand même se demander si la situation générale n'était pas au moins en partie liée à cette difficulté d'apport culturel. Donc la question des publics, elle était... naturelle et prioritaire dès qu'on a... D'abord pour répondre à la question des élus qui se demandaient s'il y aurait quelqu'un dans ce musée. Et puis, c'est une question que souvent André Diligent m'avait posée. Et puis ensuite, effectivement, créer des équipes qui savaient, une fois que ces personnes venaient pour la première fois, les accompagner pour en faire des visiteurs autonomes.
Jean-Marc Terrasse, nous sommes aujourd'hui, maintenant, dans cet espace très particulier de la scène du Louvre-Lens, une salle modulable de 270 places assises, 1500 places debout. Quelle place particulière a occupé à la fois la conception de cet espace et puis sa programmation dans l'élaboration de ce premier projet scientifique et culturel?
Au départ, il était difficile de dissocier ce projet d'événement culturel qu'on voulait organiser ici, à Lens, du reste du projet scientifique. Il n'y avait pas deux mondes. Un monde, d'un côté, le projet scientifique tel qu'il était pensé, et de l'autre, cet espace dont on ne savait pas, d'ailleurs, à ce moment-là, ce qu'il allait devenir. Est-ce qu'il y aurait réellement un espace dévoué à la programmation culturelle? Tout ça était encore à inventer. Est-ce qu'il serait mélangé aux autres? On avait un certain nombre d'idées dans tous les sens. On en parlait beaucoup. Et on en parlait autour, évidemment, de Henri Loirette, qui commençait déjà... à préciser sa pensée, je crois qu'il l'a, lui, enfin en tout cas nous exprimer sa pensée qu'il avait déjà bien élaborée. Et on a compris aussi dans ce projet scientifique qu'il manquait quelqu'un, si vous voulez, dans ce projet scientifique qui était très présent et qui était l'interlocuteur de Henri et qui était le président de la région. Et que ce dialogue se faisait en dehors du projet scientifique, si vous voulez, mais il existait et on sentait très très fort disons les attendus, hein, ou les rencontres. Et puis à ce moment-là, on était déjà à venir à Lens. Au départ, je vous signale, je vous rappelle, peut-être que Lens n'était pas forcément le premier choix dans la région. Et quand le choix de Lens est fait, nous-mêmes, on était un peu interloqués. Et en même temps, ce défi supplémentaire de venir ici à Lens nous a paru comme vraiment quelque chose de très intéressant. On n'était pas à Valenciennes, on n'était pas à Arras, on était à Lens. Et c'était vraiment, et ça je pense que c'était un choix réellement qu'on a compris du dialogue entre Henri et Daniel Percheron, entre Henri Loirette et Daniel Percheron. Et d'être délibérément sur ce carreau de mine, à cet endroit, dans ce contexte-là. Et proposer de la programmation culturelle dans un lieu comme celui-là, ça nous a paru un défi aussi encore plus important. Donc il fallait penser un lieu à l'intérieur du musée, il fallait, dans le dialogue qu'on a eu ensuite avec les architectes, il fallait développer aussi cette idée-là, eux n'avaient pas nécessairement. On l'a vu d'ailleurs plus tard dans d'autres élaborations d'autres musées, comme à Abu Dhabi par exemple, où l'espace de l'auditorium est beaucoup plus marginal qu'il l'est ici, etc. Donc il a fallu réfléchir et discuter de toutes ces questions. Et grâce à ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ce projet scientifique, c'était un des enjeux, la gestion des publics, la gestion de la culture, les liens entre faire venir un public spécifique pour la culture et pour le musée, et toutes ces démarches, tout cela était en train de s'élaborer, de discuter dans une ambiance tout à fait, j'allais dire, studieuse. Voilà.
Le Louvre, Lens, du rêve à la réalité.
Je vous propose d'écouter Xavier Dectot, directeur du Louvre Lens de 2011 à 2015.
En quelque sorte, il fallait identifier des sujets, tant pour la programmation de la salle que pour la programmation des expositions, que pour les visites, etc., qui permettraient à la fois d'avoir un très haut degré d'exigence scientifique et intellectuelle, et en même temps que l'on puisse passer à des populations qui, pour des raisons diverses, étaient, encore une fois, éloignées de la culture. Mais je dirais vraiment cet axe qui nous a, dans les choses qui nous ont guidés, il y avait vraiment cette idée de, qui était une nouvelle aussi à l'époque, de ne rien sacrifier.
Donc ne rien sacrifier et faire cohabiter finalement au musée du Louvre-Lens ce double idéal d'excellence muséale d'un côté, nous dit Xavier Dectot, conservateur, et d'accessibilité totale pour le public. C'est un petit peu l'ADN finalement du Louvre-Lens tel qu'il est exprimé dans le premier projet que vous avez imaginé. On est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'injonction contradictoire au départ pour ce musée. Et j'aimerais, Catherine, vous entendre sur justement sur cette injonction contradictoire. Comment elle était envisagée finalement dès le départ et assumée?
Moi, je n'ai pas ressenti l'injonction contradictoire parce que, effectivement, ce qui parcourait nos intentions, c'était que les Lensois méritaient le meilleur. Et que, par exemple, il n'était pas question d'envisager de proposer des œuvres de qualité inférieure au Louvre-Lens. Ça a été, inutile de vous le dire, un débat en interne avec les équipes, avec les conservateurs. Mais pour Henri Loirette, c'était le Louvre et pas un autre Louvre ou une annexe du Louvre ou un sous-Louvre. C'était le Louvre. Et là, pour le coup, c'était une injonction qui nous était répétée à longueur de temps. Et donc, par conséquent, ce que l'on était capable de faire de mieux et de meilleur à Paris, il fallait être capable de le faire à Lens. Et du point de vue des publics, on a très vite engagé, d'abord dans la maison du projet, un espace de qualité avec Adrien Gardère. Et ce n'était pas une cabane de chantier, c'était un vrai lieu qui méritait déjà d'accueillir les Lensois et les gens du quartier de la plus belle manière qui soit. Et ensuite, on a engagé pas mal d'études, d'enquêtes auprès des habitants, y compris pour les questionner sur ce qu'ils ressentaient ou ce qu'ils éprouvaient au regard d'une liste d'œuvres potentielles, de manière à répondre aussi à leurs espoirs, à leurs attentes et comprendre au fond ce que représentait le Louvre pour eux. Quel était l'horizon d'attente de l'arrivée d'un tel musée aussi emblématique à Lens. Et donc c'est dans ce respect de, à la fois d'apporter le meilleur, mais aussi de gérer avec les habitants ce choc au fond, ce choc culturel, avec toute tout l'apport intimidant que cela sous-tend de voir arriver le Louvre dans un lieu qui, à l'époque, était effectivement assez déshérité du point de vue de l'offre culturelle, même si la région est riche. Lens ne l'était pas de ce point de vue-là. Et donc là, il y avait une cristallisation qu'il fallait provoquer comme étant le point de départ de cette relation avec les habitants, avec la proximité, avec le territoire. Ça, c'était impérieux. Si on savait intuitivement que si on ratait cela, on ratait le projet.
Merci Jean-Marc Terrasse. Oui.
Je dirais presque le contraire de ce que vient de dire Catherine. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une injonction contradictoire. L'injonction contradictoire, pour moi, elle venait du fait que l'analyse de l'auditorium du Louvre était très critique. Nous critiquions énormément le fonctionnement de cet auditorium dans la mesure où géographiquement, organisationnellement, il était plein de défauts. Et la scène ne correspondait pas. Il a fallu passer des années à bricoler l'espace, à fabriquer des solutions techniques très chères et très baroques pour arriver à faire marcher cet espace qui était tout de travers.
Et, à Paris, n'est-ce pas ?
À Paris, je parle du Louvre, de l'auditorium du Louvre à Paris. Et donc, on partait de cette expérience pour se dire, ben voilà, à Lens, tenons compte de tout ça pour faire un auditorium qui n'ait pas tous ces défauts, qui règle les questions. Pour comment être en lien avec les salles, comment faire une salle modulable, comment résoudre les questions techniques, comment adapter un lieu à des publics différents, variés, etc. Et pas simplement ce que ressentaient un peu les gens à l'auditorium du Louvre, ce que ressentent encore, c'est-à-dire une bonne petite salle de concert sympathique, etc., avec pas de scène, avec une salle de cinéma qui fonctionnait pas, etc. Toutes ces questions techniques, on les vivait. Et on s'est dit, avec Henri Loirette et l'équipe du projet scientifique, comment, ici à Lens, faire le contraire, faire une salle qui puisse résoudre tout ça. Alors je dis, je ne suis pas sûr qu'on ait résolu toutes les questions. On a résolu un certain nombre de questions par rapport au public. On n'a pas résolu, je pense que pour les techniciens, par exemple, il doit y avoir des problèmes compliqués, notamment du fait que la régie étant très en hauteur, il a fallu faire une régie de scène pour suppléer à la présence, à l'organisation de cette régie. Mais il y avait là aussi des choses contradictoires dans l'organisation. Mais on est parti de ça. On s'est dit, à Lens, faisons mieux qu'à Paris. Voilà.
Oui, le Louvre reçoit autant qu'il apporte, disait oui. Henri Loirette.
Oui. Et puis, pour terminer ça, tout à l'heure, vous aviez un slogan qui était du rêve à la réalité. Moi, je dirais c'est aussi la réalité au rêve. On est parti d'une réalité difficile pour arriver à cet espace qui, d'une certaine manière, est un rêve.
Merci beaucoup. J'aimerais vous livrer à présent une citation d'Elisabeth Taburet de La Haye, qui a été la première responsable du projet scientifique et culturel du musée du Louvre-Lens. Au Louvre, à Paris, l'impression de foule est omniprésente. Les contraintes liées au bâtiment, au nombre de visiteurs, à l'histoire, sont nombreuses. Nous voulons ici, à Lens, proposer un Louvre différent, plus accessible, plus convivial, qui aura une vraie personnalité. Et j'aimerais, Bruno Godichon, vous qui œuvrez de longue date dans cette région si riche en musées, vous entendre justement sur votre acception à l'époque de ce que pouvait, de ce que devait d'ailleurs justement peut-être être cette personnalité distinctive du musée du Louvre-Lens dans un territoire où, encore une fois, des musées, il y en avait beaucoup. Rappelons que le Nord-Pas-de-Calais, sur deux départements, constituait la région la plus riche en musées, avec Provence-Alpes-Côte d'Azur au début des années 2000 en France.
En fait, je pense que moi, en tout cas, quand je suis arrivé dans le cours des réflexions, il y avait des choses qui étaient déjà dans la tête d'Henri Loirette et dans la tête de Daniel Percheron, parce que je crois qu'effectivement, ce fonctionnement en binôme a été très important. Il y avait des choses décidées, des valeurs aussi à défendre. Par exemple, je pense que Henri savait très bien qu'on attendait une réussite totale, le mieux pour les Lensois à Lens, mais que pour le Louvre en soi, c'était aussi une aventure importante et que la réputation du Louvre était en jeu dans cette affaire. Donc il y avait cette idée quand même de... Cette obligation de réussite, elle n'est pas uniquement sur le terrain, elle est vraiment à deux niveaux. Ensuite, pour Daniel Percheron, il y avait la qualité, mais il y avait aussi le chiffre de la réussite. Il fallait souvent freiner le président Percheron sur ses espoirs de visitora, par exemple. Il a mis dans ce projet, en tant que Lensois historique, hein, une charge affective énorme. Et c'était évidemment très, très important. Donc, il y a un premier élément dont je ne sais pas si Daniel Percheron l'a validé tout de suite, mais qui, en tout cas, dans l'esprit d'Henri, m'a paru une idée de départ, c'est qu'il fallait que ce soit un bâtiment contemporain et que ça ne pouvait absolument pas être une réhabilitation d'un autre bâtiment. Et donc, il y avait ce double jeu, à la fois d'être le Louvre et en même temps d'être déjà dans cette option du bâtiment contemporain. Et d'autant plus qu'on peut dire que la réponse de Sahana au concours était quand même une des plus radicales. Hein. Donc, il y avait cette idée de « je suis dedans et je suis dehors » qui était évidemment... important et de régler le problème du site précisément en prenant le site où, même si finalement l'histoire n'est pas si présente que ça, elle est quand même allégoriquement, symboliquement très forte. Je pense que il y a eu cette discussion entre deux qui a été évidemment essentiel. On le sentait dans les réunions, parce que c'était quand même souvent évoqué, et puis on le sentait dans la complicité qu'ils affichaient quand ils étaient tous les deux ensemble. Voilà. Le projet, la région était extrêmement partie prenante, et c'est vrai que c'était une région qui, de longue date avec l'Association des conservateurs, avait placé le public au centre de tout projet culturel. C'est vrai aussi que politiquement, c'est une région qui a, notamment grâce à Yvan Renard, qui était longtemps le vice-président culture de la région, du temps de Pierre Mauroy notamment, et au début de la présidence de Daniel Percheron, Yvan Renard a beaucoup poussé à cette idée de l'ouverture au public dans une région qui était frappée par une crise. Et je me souviens qu'il avait souvent cette citation, parce que les tics de langage revenaient souvent dans les discours d'Yvan Renard, mais il disait: on parle toujours du coût de la culture, mais on parle jamais du coût de l'inculture. Et dans cette région, c'est un élément qu'il faut peut-être prendre dans le bon sens pour qu'on soit efficace. Donc ça voulait dire effectivement des moyens. C'est une des premières régions en France à avoir créé des services des publics, ce qui était extrêmement rare. Et puis d'avoir aussi des musées comme le musée Matisse au Cateau, dont la directrice historique, Dominique Simusiak, venait du service des publics. Donc c'était vraiment des... Et je me souviens, moi, dans ces réunions dans les années 80-90, je suis arrivé un peu tard, mais on continuait à beaucoup évoquer cette question de l'ouverture au public. Et autant c'était difficile dans l'enquête d'aller demander à des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans un musée ce qu'ils attendaient du musée, autant je crois qu'il y a un élément qu'il ne faut pas oublier dans cette... dans le chemin du musée, c'est les beffrois de la culture, qui ont été une sorte de laboratoire vraiment imaginé par Daniel Percheron, qui s'est déjà heurté aux premières difficultés, c'est-à-dire d'emprunter des œuvres importantes pour les mettre dans des mairies. Ça a été, on peut dire, à compte-chèque ouvert, hein, parce que c'est des opérations qui étaient très lourdes, avec des scénographies à chaque fois complexes. Mais l'idée, c'était en tout cas de montrer tout de suite aux gens de la région qu'on n'allait pas se moquer d'eux. Voilà. Et je pense que ça a été cette idée d'avoir comme ça des expériences, des ateliers du musée. Il y en a eu d'autres, mais les beffrois de la culture, à mon avis, ont été très importants.
Oui, tout à fait. Merci de rappeler aussi finalement ce double enjeu, à la fois pour la région et pour le territoire, enjeu de réinvention, enjeu de redressement, enjeu de capacité à projeter ce territoire marqué par une crise économique terrible, liée à la fermeture des mines, vers l'avenir. Et puis enjeu de réinvention dans ces années-là aussi pour le musée du Louvre, doublement d'ailleurs avec parallèlement à l'invention du Louvre-Lens, celle du Louvre à Abu Dhabi, rappelons-le, on est tout à fait dans le même calendrier. Et alors pour répondre à ces différents enjeux de réinvention qui effectivement comportent autant d'espoir qui reposait sur ce musée à venir, Henri Loirette parlait volontiers, j'aime beaucoup cette expression, de musée d'art et d'essai. Donc c'est par l'innovation, par l'invention, par la créativité muséale, professionnelle, au-delà même, qu'on envisageait répondre à cette double attente. Et j'aimerais, Jean-Marc Terrasse, vous entendre justement sur cette expression de musée d'art et d'essai. Qu'est-ce que vous en avez fait?
Oui, de toute façon, personnellement, j'en ai plus rien fait parce que je suis parti et que d'autres gens l'ont fait. Je me souviens par exemple du Lab La Banque, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Béthune, où on a fait des tentatives d'exposition dans un contexte assez différent. Alors on peut faire de l'art et l'essai avec de l'art classique, et on peut faire de l'art et de l'essai avec de l'art contemporain, on peut mélanger. Et l'idée effectivement c'était d'avoir des espaces qui seraient disponibles pour toute forme d'activité, de tentative et d'action. Et pour faire ça, un travail important avait été nécessaire auprès des architectes eux-mêmes. Je me souviens parce que pour les architectes, au fond, c'était un geste architectural qui se voulait spectaculaire, intéressant, mais d'une certaine manière, ce qui s'y avait à l'intérieur les concernait que secondairement, on va dire. Pour la Galerie du Temps, c'était l'idée d'avoir un grand espace ouvert, ça, ils l'avaient compris, d'avoir une espèce de descente comme ça, d'avoir un certain nombre de choses de ce genre. Mais pour d'autres lieux, comme par exemple justement la scène et l'auditorium, elles n'étaient pas évidentes pour eux. Par exemple, dans leur musée de Kanazawa, pardon, je me confonds toujours Kawabata et Kanazawa, dans leur musée de Kanazawa, l'auditorium, le lieu des rencontres, est minuscule. C'est quasiment inexistant. C'est au milieu du musée. Et donc, on a beaucoup dialogué. Moi, je suis parti au Japon avec l'architecte, avec Sejima. On est parti, on a traversé le Japon en voiture. Elle m'a montré des lieux qu'elle aimait, un musée familial qu'elle a construit en plein milieu du Japon avec les armures de samouraï de sa famille en face d'une maison de thé. Et comment elle dialoguait, elle faisait dialoguer les objets, les lieux, les activités et la venue du public. Donc on a essayé d'intégrer aussi ou de lui faire comprendre nos objectifs pour construire justement cette perspective d'art et d'essai dont Henri parlait, et de faire dialoguer l'ancien et le moderne et le nouveau, ce qu'elle faisait elle-même d'une certaine manière, ce qu'il faisait au Japon. Donc on a essayé de... Et je pense que dans ce lieu, on retrouve à la fois l'esprit de Daniel Percheron et de Henri Loirette, très clairement, mais aussi, malgré tout, celui de cette pensée architecturale dans son essence la plus complexe, c'est-à-dire le lien entre ce qui est moderne et ce qui est ancien, à la manière japonaise.
Au-delà de ça, c'est pas forcément quelque chose de si évident, même à l'époque, de donner une importance telle au spectacle vivant, à la danse, à d'autres disciplines que celles habituellement représentées dans les musées. En quoi ça répondait aux enjeux spécifiques du Louvre-Lens, justement? Alors,
là, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au Louvre lui-même. Donc, on avait senti les difficultés dans la manière dont avait été conçu l'auditorium du Louvre Paris, les difficultés dans sa conception pour faire beaucoup de choses. Donc on essayait depuis des années, sous la pression et sous l'envie, plutôt le désir, qui était le nôtre aussi, mais d'Henri Loirette, de faire vivre le musée dans le rapport à la culture. On a fait plein de choses dans les salles. Avec l'équipe de Catherine, on a fait venir du slam au milieu des grandes salles du musée. On a fait plein d'autres choses. Cet exemple me vient maintenant à l'esprit, mais on en a fait des dizaines et des dizaines. On a donné la clé à ce qu'on appelait des grands invités pour leur donner la clé du musée, pour organiser de l'événementiel à l'intérieur du musée, partout. Et donc, on s'est dit à Lens, il faut qu'on thésaurise sur cette construction d'un rapport entre l'art et le musée, et la contemporanéité et le musée, le contemporain et le musée, disons. Et donc, on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur ce lieu-là, et l'idée de ce lieu, évidemment, à l'origine, c'était qu'il soit aussi, en même temps, salle d'exposition. Alors, pour des raisons, et là, on est confronté à des questions techniques, des questions de sécurité. Par exemple, il a fallu séparer cet espace, cette scène, de la salle qui est derrière, parce qu'il fallait, pour des questions imposées par les règles naturelles d'architecture et de sécurité, il fallait imposer cette séparation, mais qui n'était pas voulue à l'origine. Et donc, on a ce lieu où on peut faire de la danse, où on peut faire des performances, où on peut faire tout ce qu'on veut. Mais on avait aussi l'idée que ça pouvait transpirer, si on peut dire, sur le musée, sur les salles du musée, qu'il devait y avoir à l'origine cette grande ouverture, que je regrette un peu aujourd'hui, parce que je sais que tout le monde aimerait que ce soit comme ça, les gens du musée, les gens, le public, mais que les questions techniques, les questions de sécurité empêchent de régler.
Le Louvre lance du rêve à la réalité.
Alors j'aimerais vous citer Isabelle, enseignante, qui nous a dit en 2017 « Les enfants de Lens en ont fait leur musée. Ils se sont appropriés le Louvre Lens à tel point qu'ils nous parlent du Louvre Lens de Paris pour évoquer le palais parisien. Le Louvre Lens, c'est entre 80 000 et 100 000 élèves chaque année dans une ville, je le rappelle, de 30 000 habitants. Et j'aimerais, Bruno Godichon, vous entendre sur, non pas sur ce chiffre, mais sur cette appropriation. Est-ce que vous imaginiez qu'elle serait si forte et si rapide?
Pour le Louvre-Lens, oui. Bon, d'abord, il y avait quand même des moyens, si vous voulez, des moyens de communication qui étaient forts et qui aidaient, parce que il y avait quand même cette dimension. Voilà, il fallait, avant de savoir faire, il fallait faire savoir. Donc ça, c'était quand même un élément important. Après, je pense qu'on est, à partir du moment où les gens comprennent qu'on ne se moque pas d'eux, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Les habitants du Louvre-Lens ne sont pas moins intelligents que ceux du 16e arrondissement parisien. Donc, voilà, passer la période de découverte, d'apprentissage, d'apprivoisement, moi, j'étais persuadé que c'était un projet qui fonctionnerait bien. Et puis, c'est quand même aussi un outil, on parle des enseignants, un outil formidable avec à chaque fois dans la galerie du temps des œuvres de référence. Il y a au moins une ou deux œuvres que tout enseignant connaît de vue dans les prêts qui sont faits. Bon, la politique d'exposition temporaire, elle a un peu évolué avec le temps. On l'a notamment vu avec Picasso, le dialogue là, qui vient de se terminer. Mais c'était plus difficile, évidemment, quand vous aviez des expositions sur une peinture extrêmement classique. C'était peut-être pas forcément les éléments les plus simples, ou en tout cas dans l'immédiat, parce que, encore une fois, l'œil s'éduque, s'habitue, et il n'y a pas de raison non plus qu'une exposition très classique ne fonctionne pas. Mais je pense que oui, enfin, moi je suis d'une nature optimiste, alors j'ai jamais pensé que ça ne fonctionnerait pas. Et puis, encore une fois, je crois que c'était un élément important. Tout le monde a senti qu'il y avait un respect de la dignité des gens du Nord, et qu'on n'était pas là pour créer un alibi, mais vraiment pour réfléchir aussi à la mission principale du Louvre, qui est celle d'être le musée de tous les Français. Voilà, donc traditionnellement, ce partage du patrimoine c'est fait par des dépôts du Louvre ou d'autres collections nationales en région. Là, c'est vraiment c'est une réflexion tout autre qui peut aussi, qui a amené d'ailleurs les musées, les autres grands musées nationaux à réfléchir à leur positionnement avec les régions. Pour ne pas dire la province, comme on le dit de Paris, mais voilà, c'est... Non, alors, dans quelle proportion dire le nombre de visiteurs et les chiffres, c'était impossible, mais la question du succès, pour moi, elle ne se posait pas.
Merci. Donc, on vient de parler de la collection. Et justement, ce projet était à la fois fondamentalement, je pense, celui d'un musée, certes un musée autrement, mais un musée, et en même temps sans collection propre, sans collection permanente. Et j'aimerais, Catherine Guillou, vous entendre sur cette question du rapport à la collection et la manière dont, d'ailleurs, dans les espaces, elle a nourri la place centrale donnée au public dans ce premier projet.
Oui, vous parliez tout à l'heure d'un musée d'art et d'essai. Je pense que la question du laboratoire qui devait servir tout autant à Lens qu'à Paris en retour était très présent dans la dialectique qui conduisait toute l'équipe autour de ce projet. Et le Louvre à Paris, évidemment, par son organisation par département, d'une certaine manière par technique, interdit beaucoup de possibilités de compréhension sur les influences, sur les ruptures, non seulement chronologiques, mais aussi géographiques. Et l'invention de cette galerie du temps, avec sa pente douce, qui permet d'avoir une vision panoramique, presque cette map monde, mais à plat, qui permet une lecture tout autant verticale qu'horizontale, et qui permet de comprendre en même temps l'espace du temps, mais l'espace géographique, avec ces jeux de contrepoint entre les œuvres, était une leçon d'histoire de l'art, une leçon de médiation et une leçon d'aide à la compréhension, au fond, des œuvres de l'humanité dans toute sa dimension universelle. Donc c'était une gageure, je pense que c'est une utopie d'une certaine manière, je pense que c'est très difficile d'aller au bout de cette logique, mais je pense quand même que la Galerie du Temps reste et restera encore pour longtemps un exemple véritablement majeur d'une tentative de compréhension globale, presque systémique, de ce qu'est la production artistique de notre humanité. Donc moi, j'ai véritablement adoré travailler là-dessus. Et évidemment, j'étais confrontée avec la réelle difficulté de faire passer ce type de message à Paris même. Et je crois aujourd'hui que tous les efforts de médiation qui sont opérés dans les musées d'art classique comme d'art moderne ou contemporain essaient, mine de rien, d'outrepasser les grandes catégories par des hybridations, par des phénomènes de compréhension transversaux qui aident le public non seulement à comprendre ce qu'ils ont devant les yeux, mais aussi interroger le monde, interroger les grands phénomènes de société, interroger la place de l'art dans leur existence. Et je pense que la Galerie du Temps a vraiment été le début d'une tentative de répondre à ce sujet assez fondamental et qu'on a encore besoin d'interroger, je pense.
Comment est-ce que vous définiriez la place qu'occupe l'espace dit des coulisses au musée du Louvre-Lens, avec justement sur cette question de collection, cette réserve visible et visitable ?
Les coulisses, alors ça c'était... je ne sais pas aujourd'hui si c'est un lieu qui marche aussi bien que ce qu'on a souhaité. En tout cas, là aussi, je crois qu'on était un peu dans une forme d'utopie. C'était un petit peu le début de la réflexion sur les réserves. Faut-il les montrer ? Sont-elles visibles, visitables, les deux, etc. Comment on montre aussi la mécanique muséale ? Comment marche un musée ? Quels sont les métiers qui s'exerce dans un musée. Henri Loiret avait souvent l'occasion de dire que le Louvre était un conservatoire des métiers et il voulait aussi montrer cela comme étant aussi non pas un mausolée, un temple, mais véritablement une institution qui vit et qui vit au rythme battant de l'énergie de centaines de personnes, pour ne pas dire de milliers en ce qui concerne Paris, et qui ont des compétences rares et multiples. Donc c'était aussi l'envie de montrer dans cette ville industrieuse qu'est Lens, qu'un musée, c'est aussi un monde professionnel, un monde de travail, un monde de compétences, et que les fiertés d'exercer un métier, quel qu'il soit, peuvent s'exprimer autant dans un musée que sur un carreau de mine, au fond. Il y avait aussi toujours cette confrontation aux histoires qui était présente dans nos réflexions. Et les coulisses ont été une tentative de monstration de cela.
Bruno Godichon.
Oui, juste c'était pour le principe de la Galerie du Temps, qui est effectivement un principe intellectuel, mais qui était aussi la garantie de la pérennité du projet. C'est-à-dire, si on avait déplacé pour des durées indéterminées, comme on le faisait autrefois, des dépôts, là, la bagarre qu'évoquait Catherine avec certains de nos collègues du Louvre aurait tourné à la Saint-Barthélemy, parce que imaginez bien que si le département d'égyptologie peut accepter le départ en ce moment du scribe Assis, c'est parce qu'elle sait qu'elle va quand même le récupérer assez vite. Et ça, c'était un choix à la fois, je pense, très sage, très inventif, mais pas forcément simple. Parce que je crois que il a vraiment fallu toute la persuasion d'Henri, parce que dans l'esprit de Daniel Percheron, finalement, on prenait les 15 chefs-d'œuvre du Louvre, on les apportait ici, et ils y restaient enquistés dans le charbon ad vitam aeternam.
Donc y compris la Joconde.
Surtout la Joconde. mais d'ailleurs, quand on regarde le projet scientifique et culturel, l'image qui illustre le département des peintures et ses contributions, c'est la Joconde. Et ça, c'est vrai que dans la charge affective et la personnalité de Daniel Percheron, il n'imaginait pas. Je pense que pour lui, c'est un manque à sa satisfaction complète, c'est que la Joconde ne soit pas venue au moins faire un aller-retour en TGV.
C'était devenu une plaisanterie dans le conseil scientifique, oui. Chaque fois qu'on disait « Alors ça y est, Percheron a réclamé la Joconde ».
Oui, moi, je suis persuadé qu'à chaque fois qu'il se voyait avec Henri, je suis persuadé que Daniel Percheron en reparlait. Oui. Mais enfin, en tout cas, on parlait du succès tout à l'heure. Et évidemment, ce qui est aussi important, c'est que après ceux qui ont initié tout ça, que ça dure, ce principe de la Galerie du Temps, on mesure aujourd'hui, après 10 ans, quelle est vraiment la garantie de la pérennité du Louvre-Lens. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important.
Je reviens sur ces peurs que vous évoquiez, Bruno Godichon, concernant les musées de la région, ou ces attentes d'ailleurs. Quelles étaient-elles à l'époque et comment est-ce que dans votre contribution au conseil scientifique, vous avez pu faire des propositions qui constituent finalement, là encore, autant d'apports que parfois d'ailleurs de capacité de données pour les régions, pour les musées de la région.
En fait, il y a l'inquiétude des établissements, et puis je pense aussi, même plus largement, des élus dans les collectivités, c'était que la manne de la région, qui était importante par rapport à beaucoup de régions en France, il ne faut pas oublier que la région Nord-Pas-de-Calais a été la première à créer un volet musée dans le contrat de plan État-région. Donc il y avait toujours cette crainte que finalement, ce qu'on donnerait en plus pour le Louvre-Lens, on l'enlèverait de ce qui était donné aux autres. Il y avait cette question-là. Après, chez un certain nombre de conservateur, ce qu'on entendait aussi, c'était mais est-ce qu'on n'a pas été assez bon pour qu'on se sente obligé de rajouter le Louvre-Lens à la région? Donc il y avait évidemment cette question qui s'est posée. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, si à l'époque, c'est pas qu'il y avait vraiment des oppositions, mais des inquiétudes, aujourd'hui, il y a un satisfacit qui est complet. On a tous mesuré dans nos musées en région que ce que le Louvre a apporté, au moins pour nous, c'est un logo de qualité, une sorte d'AOC, voilà, qui fait que on sait que dans la région, on prend pas trop de risques puisqu'il y a déjà au moins le Louvre qui est présent. Et nous, on a vu très très nettement, au moment de l'ouverture, un élargissement du public international, notamment britannique, qu'on ne voyait mais pas du tout. Et alors ça s'est avec le temps un peu amenuisé, la curiosité était sans doute pour beaucoup, mais il y a beaucoup de musées, je pense notamment à Le Ward et puis peut-être à La Piscine, qui sont des musées très emblématiques de leur région, qui racontent l'histoire de la région. On a senti vraiment que les gens venaient de plus loin, plus et de plus loin. Voilà.
Le Louvre lance du rêve à la réalité.
Alors aujourd'hui, au musée du Louvre-Lens, on a un public qui vient très nombreux, un public qui vient parfois de loin, mais un public qui vient majoritairement de la région, plus de 70%. Donc c'était un petit peu ce qui était imaginé dans ce premier projet scientifique et culturel, une sorte de miroir inversé de la fréquentation du musée du Louvre. Un public aussi qui est un public plus populaire, un public moins habitué des musées. Public aussi qui vient et qui revient. En 10 ans, ont été accueillis ici 8 fois les habitants de la ville de Lens, pour vous donner un exemple. Donc j'aimerais maintenant vous entendre peut-être effectivement sur la base de ces quelques données, mais vous entendre sur ce que peut-être vous feriez aujourd'hui différemment, ce que éventuellement vous pourriez regretter, mais aussi la place finalement qu'a eu ce projet pour vous dans votre action et dans la vision de votre métier. Jean-Marc Terrasse.
Au départ, on avait cette réticence financière, on l'a ressentie aussi dans la programmation culturelle. Culture Commune était très inquiet quand on est arrivé. Il se disait, mais si on donne de l'argent pour les manifestations à Lens, il n'y en aura plus pour nous. On leur disait, mais non, on va travailler ensemble, c'est des choses qu'on va faire tous ensemble. Je crois que ce qui a été important pour nous, c'était de se dire qu'on prépare un projet, on le monte, on le met en place du point de vue des événements culturels et on passe la main. C'est-à-dire on laisse le Louvre-Lens lui-même faire cette programmation. C'est-à-dire si on le parachute de Paris, si on arrive avec nos idées toutes faites parisiennes ou internationales, il y aura un décalage. Ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire cette réappropriation par le public du lieu, cette appropriation par le public du lieu, est due aussi au fait que le projet a été pensé ici, dans un deuxième temps. Il est né dans la relation que les gens qui travaillaient ici ont mis en place avec l'espace culturel local, avec le public localement. Et je pense que si je devais refaire mieux, je crois que j'aurais peut-être dès l'origine, des débuts du scientifique, essayé de penser qui allait plus tard s'occuper du Louvre-Lens, qui allait être faire participer cette personne ou ces personnes déjà à l'élaboration du projet. Une fois qu'on a pensé ce projet, alors c'est plus compliqué, mais une fois qu'on a pensé ce projet à Paris, après, il s'en va. C'est le bébé, c'est comme un enfant qu'on fait naître. Il fait ses études et puis il se débrouille, il va vivre sa vie. Et je pense que c'est très intéressant pour nous de le voir vivre sa vie, comme des parents. Je ne veux pas me penser pour un parent du Louvre-Lens, c'est le seul vrai père, c'est Henri Loirette, mais en disant qu'on est, les nounous, les nurses, les nanas qui ont accompagné le projet, c'est toujours émouvant. Je regarde, je suis la programmation, j'habite loin maintenant, j'habite dans le sud de la France, je regarde la programmation et je me dis, zut, je viendrai bien. Souvent, et ça c'est une espèce de grande satisfaction.
Merci beaucoup, Catherine.
Moi, je ne sais pas dire ce que je referais ou ce que je ferais autrement, mais moi aussi, j'éprouve toujours vis-à-vis du Louvre-Lens à la fois de la fierté, parce que voilà, c'était une aventure professionnelle et culturelle magnifique, et de l'émotion, parce que j'aime... On a parlé d'affect autour de cette table, et j'ai de l'affection profonde pour ce lieu, et puis une petite pointe de jalousie, parce que quand j'entends les chiffres liés au public de proximité, et maintenant que je travaille au Centre Pompidou et que je suis proche aussi du Centre Pompidou-Metz, eh bien je vois que vous avez magnifiquement réussi ce pari qui était d'abord de satisfaire le public de proximité. Metz y arrive pas mal aussi, mais moins bien que vous. Et quant à Paris, on reçoit 1%, grand maximum, de public de catégorie ouvrière. Et moi, en tant que directrice des publics, si j'ai un grand échec, c'est celui-là. C'est de ne pas réussir du tout à Paris à inverser cette tendance. Et j'espère qu'on y arrivera un jour. Voilà. En tout cas, vous êtes un exemple.
Bruno Godichon.
Alors, moi, de regret, j'en ai pas, parce que je n'ai pas non plus été un membre très constructif du projet. Par contre, ce qui est sûr, c'est, je disais tout à l'heure, c'est une réussite indéniable. Donc, y a sans doute des choses qui sont venues avec le temps. Enfin, c'est en faisant marcher le métier que finalement les choses se construisent. Je pense que le fonctionnement du musée, les attentes avec vous, après Xavier Dectot, ne sont pas non plus les mêmes. 10 années de fonctionnement, on se rend bien compte de ce qui marche mieux ou moins bien. Donc voilà, moi maintenant je suis un visiteur du Louvre-Lens. Alors, comme j'habite tout près, moi je me dis chic, je vais pouvoir aller voir l'expo. Enfin, franchement, voilà, c'est une idée qui a germé dans la tête de deux hommes dont on a beaucoup parlé. Enfin, je pense que c'est important de rappeler que voilà, c'est quand même le bébé, si on peut dire, d'Henri Loiret et de Daniel Percheron. Je pense avec un bon partage des responsabilités. Des exigences de l'un et de l'autre qui ont beaucoup nourri le projet. Je ne suis pas sûr qu'Henri, par exemple, aurait autant senti, au-delà d'un vœu pieux, la réalité sociale d'un tel investissement. Et puis, je pense que Daniel Percheron a eu l'impression d'avoir connu Ingres et Toutankhamon grâce à ce projet. Donc, voilà, c'est vraiment extrêmement important. Et pour nous, dans la région, c'est important de continuer aussi à s'appuyer sur cette réussite et à être vigilant, pour reprendre les questions du début, à ce que la région, effectivement, n'oublie pas les autres projets. Il va y avoir là dans quelques mois maintenant une autre aventure qui va être celle de la fermeture du Centre Pompidou. Donc Xavier Rey et Laurent Lebon sont venus nous voir pour voir comment la région allait pouvoir s'intégrer dans ce dispositif. Alors je dirais que c'est sans doute déjà une des réussites du Louvre-Lens que d'avoir rendu cette question obligatoire. Hein, ça, c'est évident. Et on a senti, encore une fois, autant chez Laurent Lebon, le président, que chez Xavier Rey, le directeur du centre, enfin du Musée national d'art moderne, que les régions ne seraient pas oubliées et qu'il fallait construire quelque chose d'équilibré, à la fois pour l'institution parisienne et pour les antennes ou les projets en région.
Merci Si, on a parlé d'affect et on a parlé d'homme. Et je crois qu'effectivement, au cœur de cette histoire du Louvre-Lens se croisent bien sûr des aventures humaines individuelles, une aventure territoriale, des moments forts peut-être chacun pour terminer rapidement, un mot ou un moment au moment de l'invention du Louvre-Lens ou dans la vie du Louvre-Lens telle que vous l'avez croisé même de loin depuis, qui constituerait votre Louvre-Lens.
Il y a deux moments. Il y a le moment où je suis venu pour la première fois à Lens. Et je me suis dit, j'ai pris le train, je suis sorti à la gare, je suis venu à pied jusqu'ici et je me suis dit, oh là là. Voilà. Et puis, 10 ans après, ou 8 ans et demi après, je suis revenu ici et j'ai été très, très ému par cette ouverture et par ces moments de... Voilà, parce que ce que c'était devenu.
Catherine Guillou.
Moi aussi, il y a deux moments. Il y a ce moment de rupture, probablement, qui a été celui où on a choisi Sanaa et où j'ai vu Henri Loirette regarder Daniel Percheron, dont on savait qu'il n'était peut-être pas convaincu par ce projet, mais qui a... était dans le sens d'Henri Loirette. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est l'aventure qui commence avec quelque chose d'énorme, qui est effectivement cette rupture symbolique entre le palais du Louvre à Paris et cette architecture minimaliste et si pure. Et puis un autre moment qui est celui de l'inauguration où j'étais... un peu intimidée, très émue, et où Henri Loirette m'a un peu poussée et je me suis retrouvée finalement devant le président de la République, alors que je n'étais pas prévue pour y être. Donc voilà, c'était à la fois drôle et en même temps un moment très sympathique et très émouvant.
Merci. Bruno Godichon.
Je pense que l'émotion, c'est vraiment le mot important. Peut-être à la différence de nos deux amis qui avaient un contact régulier avec Henri Loirette, moi, l'homme du musée que je voyais presque le plus souvent était en fait Daniel Percheron. Et le bonheur de laisser à cette région un tel monument, c'est vraiment un projet. Moi, j'ai vraiment mesuré... à quel point il était fondamental pour lui, c'était cette question de la dignité. On sait, en plus, dans la sociabilité de ce pays des mines, la fierté, c'est vraiment un élément très, très important. Et donc, les gens avaient été fiers des mines. À Lens, on était fiers du RC Lens. Et qu'aujourd'hui, ils puissent se dire les Lensois vont être fiers de leur Louvre. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui peuvent, à la fin de leur mandat, se satisfaire d'une telle réussite. Et voilà, moi, c'est vraiment, je pense que ça a été une très belle page pour la région et que, encore une fois, cette région, c'est une région de militants et d'entrepreneurs. Voilà, il y a des causes et puis on se donne les moyens d'y arriver. Et là, Daniel Percheron, c'est super homme du Nord. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Catherine Guillou. Merci Bruno Godichon. Merci Jean-Marc Terrasse d'être venu partager avec nous un petit peu de ce qu'a été votre aventure du Louvre-Lens. Vous avez beaucoup cité Henri Loirette et Daniel Percheron comme étant les deux pères de ce musée. Ils viendront prochainement aux côtés de Jean-Jacques Ayagon raconter leur propre histoire du musée du Louvre-Lens dans un autre podcast. Mais vous témoignez bien tous les trois qu'il y a beaucoup plus de deux pères à ce musée. Il a été voulu, pensé, je pense que c'est sa force, fondamentalement, collectivement, le départ, et je vous remercie d'être venu nous raconter à quel point cette aventure a été partagée. Vous en êtes de grands acteurs. Merci beaucoup.
Merci, merci Marie.
Merci beaucoup.
Le Louvre, Lens, du rêve à la réalité. Merci.